Nous sommes face à un choix historique. Choisir le monde dans lequel nous vivrons dans 10 ans ou ne pas choisir et laisser les événements suivre leur cours.
Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mobiliser comme jamais aucune communauté humaine auparavant.
Nous avons besoin de sortir de nos intérêts personnels pour embrasser l'intérêt de tous.
Nous vous appelons à rêver qu'un autre monde est possible.
Bonjour Salvador.
Bonjour Laetitia.
Alors tu es un des membres fondateurs de Permaculture 44.
Oui.
Et nous sommes en ce moment dans un jardin. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Il fait très beau, il a plu cette nuit, donc on a encore plein de rosées de partout. On est très très bien là, au soleil. Et c'est un jardin collectif loué par un jardin familial, loué par la mairie de Rezé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet endroit ?
Ça fait quelques années que j'avais décidé de me mettre au jardinage. Et donc, il me fallait une parcelle. Alors, j'ai fait une demande à la mairie. J'ai attendu 3 ans. Et puis, j'ai obtenu cette parcelle de 130 mètres carrés.
D'accord. Et est-ce que autour de chez toi, tu avais possibilité d'avoir un jardin ou pas du tout, là où tu habites ?
Là où j'habite, il y a une dame qui me prête un petit bout de jardin, mais c'était vraiment très peu. Et puis, j'avais besoin d'un endroit où je fais ce que je veux. Ça me permet, on va dire, de me défouler de cette envie pour ensuite participer à des choses en collectif où je peux lâcher prise.
D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu peux pas nous parler de la permaculture ?
La permaculture.
Qu'est-ce que c'est pour toi ?
Pour moi, alors rapidement en plus, c'est l'art et la manière de créer et d'entretenir des endroits où il fait bon vivre. Chacun des mots de cette phrase peut amener à une discussion longue. L'art, la manière, bon vivre,
oui.
Créer, entretenir, bon bref. Tous ces mots-là appellent à discussion, mais je trouve cette phrase rapide, concise et avec des mots que tout le monde comprend. En général, il est question de résilience, d'écologie, de conception, donc on en revient à l'art et à la manière. Il y a des définitions très longues et complexes de la permaculture. Moi, j'aime bien celle-ci, parce qu'en plus, elle ne limite pas à l'agronomie ni à l'agrologie.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là ? Est-ce que tu as fait un constat personnel ? Est-ce qu'il y a eu un événement ? Est-ce que c'est la somme de toutes choses ? Pourquoi aujourd'hui tu es vraiment engagé de cette façon ? Qu'est-ce qui était le déclencheur ?
Oh là, j'en parlais récemment avec un ami et je me rappelle la situation, si ce n'est la date, mais j'étais très jeune, je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. J'étais au collège pendant une heure de permanence et j'ai décidé que moi je ne participerais pas à cette société de fous. Parce que pour moi, les seules façons que je connaissais de participer, elles étaient déstructurantes et participaient pas à ce à quoi j'avais envie de participer. Ça fait beaucoup de participer, mais oui, il est vraiment question de ça, participer. Et puis je me suis construit un petit peu comme un ours, relativement associable. Et un jour, j'avais aussi des comportements qui faisaient que j'avais un petit peu peur de moi-même. Donc j'ai voulu apprendre à me connaître, à savoir dans quoi je vis. Et comme il n'existe rien me concernant dans les publications ou documentaires, donc j'ai appris ou j'ai commencé à apprendre l'humain, ce dans quoi l'humain vit. Et donc à travers les autres, je me suis appris moi-même. Ça m'a amené pas mal de connaissances, mais pas le bonheur. Et un jour, j'ai lu le livre qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille » de Masanobu Fukuoka. Dans ce livre, il décrit à un moment comment il a eu une illumination. Et moi, mon illumination, je l'ai eue en lisant son livre. C'est-à-dire que cette illumination, elle consiste à comprendre que beaucoup des efforts que fait l'humanité pour contrôler la nature et en obtenir ce que l'humanité en veut, sont vains. En fait, c'est un combat perpétuel, alors que si on allait un petit peu dans son sens, elle irait énormément dans le nôtre. comme de toute façon elle a envie, on a beau la maltraiter, elle nous nourrit. Et imaginons ce qu'elle ferait si on arrêtait de la maltraiter.
D'accord. Là, en fond sonore, justement, on entend un avion qui passe. Et je voulais savoir, toi, comment tu fais pour vivre de cette façon dans un monde où on est sans arrêt sollicité par un flot de personnes, d'informations. Comment tu fais pour te retrouver toi-même? Est-ce que malgré tout, tu es pris par ce cycle qui va, ce rythme qui va trop vite?
Il y a une partie de moi, oui, qui est pris par ça. D'ailleurs, l'état du jardin le montre bien. Cette année, j'ai pas eu trop le temps d'y venir. Disons que j'avais pas prévu des temps pour y venir, mais l'année prochaine, je me ferai pas avoir. Je réserverai des temps à l'avance plutôt que de considérer systématiquement que je suis disponible et puis que j'irai au jardin quand j'aurai le temps. Je prendrai des temps pour le jardin d'emblée. C'est vrai que...
Et est-ce que tu as un truc pour... Est-ce que tu te sens victime de ce rythme dans lequel on est tous, ou est-ce que toi, tu as quelque chose en particulier pour y faire face?
Alors, tous les mardis soirs, je me retrouve avec quelques praticiens du système A. Et ça, c'est mon petit... Là où je me ressource, quoi, une fois par semaine, où je me recentre.
Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce qu'est le système A?
Alors, en deux mots, mais après je développerai un peu,
oui.
En deux mots, c'est la permaculture à l'intérieur du corps, quoi. Et après, donc, je développe. C'est un art de survie mis au point en Russie, au Moyen-Âge, et qui consiste à maîtriser sa respiration et à se décontracter musculairement. La vie, elle est pleine de coups du sort, que ce soit un pot de fleurs qui nous tombe sur les pieds quand on passe près d'un bâtiment, ou bien tout un tas d'autres coups qui peuvent nous parvenir, physiques ou mentaux. Et le système A vise à la résilience du corps et de l'esprit. Donc c'est vraiment en lien avec la permaculture. Et quand on observe le système A sous l'angle des 12 principes de la permaculture, disons les 12 principes les plus connus.
Est-ce que tu peux les nommer de mémoire?
Je peux vous en citer certains.
Certains,
oui.
Certains.
Notamment le premier, observer avant d'interagir. Favoriser les solutions les moins énergivores. Favoriser les bordures. Tout ça mérite développement à chaque fois, évidemment. Là, je fais que les citer. Il y en a 12, hein. Et il y en a un 13e aussi que je ne sais pas d'où il vient, mais je le trouve très pertinent. C'est si ce n'est pas fun, ce n'est pas durable. Dans le sens où si ça ne nous convient pas, si ça nous ennuie, si ça nous embête, bah, ça ne va pas durer. Et si ce n'est pas fun, même pour mon voisin, ça risque de ne pas durer chez moi, parce qu'il va m'embêter par rapport à ça.
Ouais, d'accord, c'est un bon critère pour savoir ce qui est durable ou pas, quoi.
Oui, oui.
D'accord. Et est-ce que, tout à l'heure, on parlait de ton parcours et que tu as été un peu en révolution contre le système scolaire, en tout cas, donc, contre cette éducation et ce formatage. Et qu'est-ce que tu penses de l'éducation?
Moi, j'ai une petite théorie qui synthétise bien ce que je pense. On s'aperçoit que les enfants africains sont très volontaires pour aller à l'école. Ils traversent des fois, ils ont une demi-journée de marche et ils vont croiser des lions et des rhinocéros sur leur chemin. Mais ils y vont. Chez nous, c'est pas pareil. Les enfants ne veulent pas aller à l'école, malgré qu'on les accompagne jusqu'à la porte de l'école ou qu'on les laisse libres. De toute façon, qu'ils soient libres ou qu'on les accompagne, ils ne veulent pas y aller. Ma théorie est la suivante, c'est que les enfants africains, leurs parents ne sont pas allés à l'école.
Oui.
C'est pas la peine de développer plus, quoi. Les enfants en Occident, ils voient ce que l'école a fait de leurs parents et ils n'ont pas envie d'aller à l'école. C'est pas de la méchanceté envers les parents.
Oui, et qu'est-ce que l'école a fait aux parents, alors? Est-ce que tu peux développer ça?
Des gens impatients, notamment. Des gens peu sensibles. Rien que pour le lever. Dès les plus bas âges, l'enfant comprend bien que ses rythmes passent loin derrière les rythmes de du travail, de l'industrie, même pour une large partie de la société. Et ça, un enfant, il a du mal à intégrer qu'il ne vaut rien, que ses rythmes, il ne doit pas les prendre en compte. Naturellement, c'est comme ça, on a tendance à prendre en compte nos propres rythmes. Quand un enfant est très difficile à lever, c'est bien simple. Si ça se trouve, on essaye de le réveiller au milieu de son cycle. Mais ça, il y a l'heure à laquelle on doit embaucher, le temps de transport, le temps pour se préparer, et c'est tout ce qui compte. Peut-être que si on essayait de le lever une demi-heure ou une heure avant, même avant, ça serait plus facile. Mmh. Parce qu'après, les rythmes, la société nous en empêcherait. Et avant, c'est aussi assez difficile parce qu'il faut se lever soi-même jusqu'à une heure avant.
Et donc tu penses que c'est la conséquence de notre éducation, en fait, des comportements qu'on retrouve aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer, parce qu'on est un peu, notre éducation l'a un petit peu subi, quoi. À 3 ans, on ne peut pas choisir dans quelle école on ira et avec quel système. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, adulte?
Alors je pense que déjà, on pourrait faire preuve d'un petit peu plus de compassion. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les choses que l'enfant n'a pas le choix, et nous n'avons pas le choix non plus en tant que parents, seulement l'éducation est obligatoire. Mais très peu de gens peuvent donner l'éducation à la maison. Donc, dans les faits, l'école est obligatoire. Eh bien, on pourrait faire preuve d'un petit peu plus de compassion plutôt que de dire « c'est obligé, c'est comme ça ». Il se trouve que nous-mêmes, on a eu à faire face à très peu de compassion dans nos enfances respectives. Donc, on a tendance à réitérer. Et de fil en aiguille, ça donne aussi... Nos enfants vont devenir durs, vont avoir tendance à nous maltraiter nous-mêmes. Et je pense qu'il y a une réflexion qu'on pourrait se faire, parfaitement égoïste et égocentrique, mais qui est relativement intelligente. Nous vieillirons dans le monde que feront nos enfants. Si on les maltraite maintenant, quel monde nous construiront-ils pour quand on sera vieux et grabataire?
Quel monde laissons-nous à nos enfants, comme dit si bien Pierre Rabhi?
Là, c'est plus altruiste que ce que je disais. Mais j'ai l'impression que dans notre société, il faut trouver des arguments assez égocentriques. De toute façon, l'altruisme, c'est une forme, à mes yeux, d'égoïsme. Je pense être altruiste dans différentes facettes de ma personnalité, mais c'est égoïste parce que ça me fait plaisir.
Bah oui. Là, ça va, c'est un bon deal, hein.
Oui, c'est constructif, je pense.
Et est-ce que ça t'est arrivé de ressentir que plus tu t'ouvres en tant qu'être humain, plus tu ouvres ton cœur et plus tu remarques qu'il y a des énergies autour de toi qui circulent, ce qu'on appelle le chakra, et quelque chose qui nous dépasse un peu?
Il y a clairement quelque chose qui nous dépasse. Moi, j'ai tendance à appeler ça l'univers. D'autres trouvent d'autres mots. Pareil, j'en parlais avec un ami assez récemment, mais parce que je regardais une conférence sur le bien-être et le bien-être de l'humain et son influence sur les actes qu'il a en société. Et le monsieur disait qu'il donnait beaucoup de platitudes, c'est-à-dire que des choses qu'on n'a pas besoin de répéter, quoi. Être gentil, ça fait du bien. Quand on est bien, on a plus tendance à être gentil. Et il me semble avoir entendu une étude qui disait aussi que les gens qui croient en quelque chose sont plus heureux dans la vie que les gens qui ne croient
en
rien
ou
disent ne croire en rien.
Il y a une étude qui dit ça. Ouais.
Ils croient en pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne croient pas, ils croient encore. Mais ils croient inversement, quoi. Et ça les rend pas heureux.
Oui. Alors, on va terminer avec un petit événement qui aura lieu bientôt. C'est les 18 et 19 novembre. Il s'agit d'un grand rassemblement de toutes les personnes qui sont engagés aujourd'hui pour avancer, pour faire quelque chose de positif, on va dire, autour d'actes positifs de toutes sortes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça sera où et c'est quoi exactement?
Alors, c'est un week-end organisé par quelques personnes qui font partie elles-mêmes d'associations qui œuvrent au sein de la mutation de notre société, là, de l'évolution, évidemment, je ne trouve pas le mot, la transition actuelle. Cette transition, bon, bah, elle a lieu quoi que nous fassions, mais beaucoup de gens sont perdus dedans, et puis les associations et les personnes qui veulent œuvrer en son sein sont un petit peu encore dans leur coin. Donc ce week-end, il a pour but de nous faire nous connaître, nous faire nous rencontrer, nous faire sans doute créer des synergies entre personnes et associations, entre associations, entre personnes. Ça a lieu à la gare de l'État, sur l'île de Nantes.
D'accord, la gare de l'État. Oui. C'est une gare ?
C'est une ancienne gare.
D'accord.
Sans doute en rapport avec d'anciens mines. Mais là, bon, bah, ça a été réaffecté. Et donc, il y a aussi la maison des syndicats dedans. Et puis, il y a des salles que la mairie loue ou prête à des associations.
D'accord. Et comment, si on veut s'inscrire ce week-end-là, comment on fait ?
Alors, il y a un site qui s'appelle com-1.club. Site très simple, avec surtout une page. Mais sur cette page, on peut s'inscrire et répondre à un petit questionnaire.
D'accord. Et donc, on va tous se retrouver là, le 18 et 19 novembre. Et oui. C'est là où je te donne rendez-vous aussi. J'en ferai partie, bien sûr.
Ok.
À très bientôt.
À très bientôt.
Et merci.
Au plaisir.